Bienvenue dans 100 ans de cinéma et des poussières sur Prune. Tout de suite, retrouvez Alexis et son invité pour une heure de discussion autour d'une thématique de cinéma. Funny little two-bit town where nothing's real.
Et bonjour et re-bienvenue dans 100 ans de cinéma, votre émission mensuelle sur la Radio Prune qui parle de cinéma, de tout le cinéma, de toute son histoire. Cette émission est un peu particulière puisque en fait c'est la deuxième partie d'une émission qui a eu lieu déjà il y a un mois. Et on retrouve notre invité de la dernière fois, même chose, ça c'est assez exceptionnel, mais bouleversons les codes puisqu'on parle d'un réalisateur, acteur, scénariste, etc. qui a lui-même beaucoup bouleversé les codes, donc en hommage, faisons ça. Encore une fois, cette émission, comme la dernière, donc, est enregistrée dans les locaux de Radio Campus Paris, donc on les remercie énormément pour cette possibilité d'enregistrer chez eux, voilà, d'utiliser leur studio, merci Radio Campus Paris. Et puis notre invité est donc le même que le mois dernier, c'est Marco Pierrard.
Ça n'a pas changé.
Bonjour.
Souvent dit que les suites sont moins bien, on va essayer de faire aussi bien que la première émission du coup. Parce que...
Alors c'est pas une suite, c'était un diptyque, c'était pensé
c'est
comme
ça.
Deux fois, voilà.
Exactement.
C'était pensé en deux parties, heureusement. Marco, donc juste pour te représenter rapidement à ceux qui n'auraient pas écouté la première émission, donc tu es un ancien de Prune, tu as été directeur d'antenne il y a Walou.
Voilà, c'est ça, au siècle dernier.
Et puis ensuite, tu as été directeur de Radio Campus Paris également.
Exactement.
C'est bien normal.
Tout ça se tient en fait. Hein.
Tout ça, voilà, tout est lié. Et puis donc, tu es un très grand fan de Orson Welles, puisque c'est Orson Welles le thème de notre émission. Le mois dernier, on a parlé donc des débuts d'Orson Welles, de la manière dont il s'est fait connaître, donc au théâtre, à la radio, à un très jeune âge. Et puis donc ensuite au cinéma, avec un film qui a marqué son époque, pas immédiatement, mais plutôt rétrospectivement, c'est bien sûr Citizen Kane. On en a parlé déjà, donc on va pouvoir passer à autre chose. Il s'est passé un mois pour vous, chers auditeurs et auditrices. Il s'est passé 15 minutes pour nous. On est chaud, on continue.
C'est reparti.
C'est reparti pour une heure autour d'Orson Welles. Donc Orson Welles réalise Citizen Kane, un film qui sera assez mal perçu à son époque, qui sera surtout mal diffusé.
Oui, au mieux, il passe inaperçu, quoi. C'est-à-dire que voilà, il n'a pas, on va dire, le succès qu'il mérite. Alors, il y a certaines personnes quand même à l'époque qui reconnaissent que voilà, ça risque quand même de marquer un petit peu peut-être le cinéma, mais sinon en effet il est pas forcément très très bien diffusé parce que en effet Hearst avait aussi du coup des chaînes de cinéma, donc mais évidemment il n'est pas passé dans ces chaînes de cinéma, et donc en effet il n'a pas eu, on va dire, l'exploitation qui l'aurait mérité à l'époque, et donc c'est, alors on va pas dire un échec total, mais le studio, on va dire, est un petit peu refroidi par ces premières sorties, quoi.
Ouais. N'empêche que par contre, il a mené ce projet jusqu'au bout. C'est vraiment le film qu'il voulait faire. Il avait le director's cut, donc il avait le choix sur le produit final, ce qui était du jamais vu à Hollywood.
Et c'est surtout jamais vu pour lui, parce que c'est un peu tout le problème avec la carrière de Welles, c'est qu'en fait, il a commencé du coup avec une Rolls, quoi. C'est-à-dire que voilà, il a pu faire ce qu'il voulait, et ça sera plus jamais le cas. Et dès le deuxième film, je prends des Amberson, qui va se faire charcuter par le studio dans son dos pendant qu'il sera au Brésil.
Voilà. Donc en fait, le contrat que lui a proposé le studio, la RKO, lorsqu'il est arrivé à Hollywood, c'était donc on l'a dit, un carte blanche, carte bleue, et il a dit lui-même qu'il avait l'impression d'être un enfant avec le plus beau train électrique du monde, c'est-à-dire qu'il avait le plus beau jouet du monde, et il l'a utilisé à bon escient. Par contre, après, effectivement, ça se gâte. Il avait un contrat donc pour faire plusieurs films.
Oui, on avait dit, tu avais dit deux dans l'émission précédente, je crois que c'était même trois.
Hein.
C'était prévu sur trois. Et le deuxième, du coup, projet qu'il veut faire.
Juste pour rappel, Citizen Kane, c'est 1941.
Exactement.
Voilà.
Et le deuxième projet donc, qu'il veut faire dès 1942, c'est La Splendeur des Amberson. Donc qui est basé sur un classique américain, toujours Citizen Kane, c'était vraiment un scénario original, mais là on retrouve le fait que Welles se base sur des œuvres qui existent souvent déjà, que ce soit du Shakespeare ou de la littérature américaine, et donc La Splendeur des Amberson, très littéraire, comme œuvre. Pareil, il reprend sa troupe du Mercury Theater pour jouer comme dans Citizen Kane, et les projections test en fait se passent très mal, c'est-à-dire que les gens trouvent ça triste, triste, glauque, notamment la fin, puisque voilà, il a gardé cette fin un petit peu, voilà, pas forcément très très joyeuse du livre. Et le studio en fait prend peur, donc c'est un peu, n'est pas le seul à avoir pâti de ça, mais les fameuses projections test qui, voilà, qui permettent de savoir si le film va être bien reçu ou pas par le public. Au final, on font qu'il y a beaucoup de films qui ont été modifiés par le studio à cause de ça. Mmh. Et Wells, en fait, on lui dit, tiens, tu vas aider l'Amérique en allant en Amérique latine et faire un film en fait de bonne entente en fait entre voisins et donc il fait ok, sauf qu'il n'avait pas fini de monter en fait la Splendeur des Ambersons à ce moment là
il part donc en Amérique latine, enfin au Brésil. Mais sur la demande plus ou moins express de Franklin Delano Roosevelt, président des États-Unis.
C'est ça,
et pas du studio pour le coup.
Alors du coup le studio le laisse partir, parce que voilà, c'est quand c'est le président qui demande, on y va. Mais en effet, oui, c'est une demande en fait politique, hein, quelque part. C'est vraiment de la bonne entente entre les pays. Roosevelt en fait voulait qu'il y ait des échanges comme ça culturels pour éviter la guerre, hein, tout simplement. Quand il y a des échanges culturels, commerciaux mais aussi culturels, ça permet d'apaiser les tensions. Et donc avec sa vision, on va dire, politique, ça rentrait complètement dans ce que voulait Wells. Alors ça s'est mal passé à tout niveau, puisqu'il n'avait pas fini de faire la Splendeur des Ambersons, ce qui fait que beaucoup de gens disent en fait que Wells n'a jamais su finir ses projets. Alors, il y a débat là-dessus. Alors, est-ce que c'est vrai à 100%, est-ce que c'est vrai à 80%, voilà. C'est en tout cas un fait qu'il est parti sans avoir terminé. Donc certains disent, finalement, en fait, sa carrière, il a eu ce qu'il voulait, parce qu'en fait, il a toujours été incapable de finir ses projets. Et pour avancer cette thèse-là, il y a aussi le fait que lui-même, il disait que finalement, le film lui-même, ça ne l'intéresse pas. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est expérimenter. Et c'est vrai que quand on regarde tout ce qu'il a fait, il y a beaucoup d'expérimentation. Et presque, en fait, son kiff, c'était de faire les choses, en fait, même avec des moyens limités, avoir vraiment des bâtons dans les roues pour le faire. Et que le projet final, en fait, on lui-même. Voilà, c'était plus l'expérience qui l'intéressait. Mmh. Et donc, il est parti au Brésil. Et donc, ça s'est mal passé parce que le studio a retourné Robert Wise, d'ailleurs, qui a fait West Side Story.
Alors, Robert Wise, qui était son monteur.
Son monteur, exactement.
Le monteur déjà sur Citizen Kane.
Exactement, ouais.
Et qui sera le monteur donc, de la Splendeur des Ambersons.
Et le studio demande à Robert Wise, en fait, de retourner une fin, notamment, de remonter le film. C'est-à-dire qu'il y a une scène, pour ceux qui ont vu la Splendeur des Ambersons, il y a un grand escalier en fait dans le film. Il y a une scène comme ça un peu en plan séquence, et dans le film en fait on ne comprend pas pourquoi le studio l'a coupé en fait. Il y avait un magnifique plan séquence, ils ont recoupé en plusieurs bouts, donc ça fait partie des choses qui font qu'ils ont charcuté un peu le film, et notamment cette fin. Wells en fait envoyait des mémos, s'est fait envoyer une copie du film pour le monter au Brésil, pendant donc qu'il montait ce documentaire un peu de bonne entente. Et donc ça s'est mal passé puisque le studio a refait la Splendeur des Ambersons dans son dos, il n'a pas eu la main, il est ressorti du coup avec une fin, une happy end on va dire, qui gâche un peu tout en fait. Et au niveau du montage, ils ont rajouté de la musique, enfin voilà, ça vraiment, c'était pas du tout sa vision à lui en fait. Voilà. C'est intéressant parce qu'on a tous les mémos que Wells a envoyés du Brésil, donc on sait quelle était un peu sa vision. Et là très récemment, il y a un réalisateur en fait qui s'est entendu avec une chaîne américaine, ils vont faire un documentaire et il part au Brésil normalement, alors selon la situation évidemment sanitaire parce que là-bas c'est très compliqué, mais en septembre, il va au Brésil en fait pour essayer de retrouver ces bouts en fait qui seraient peut-être chez des collectionneurs, la fin originelle de la Splendeur des Ambersons. Ça c'est un peu un mythe cinéphilique, on va dire. Si on arrive à retrouver ça, c'est un peu le Graal, la carrière de Wells, de retrouver comment était le film imaginé par Wells à la base en fait, parce que au niveau du studio, ils ont tout, enfin les négatifs ont été détruits quoi. C'est-à-dire que là-bas, à l'époque, ça rigolait pas. C'est-à-dire qu'il y a pas de director's cut après sur les DVD ou les Blu-ray. Ouais. Le studio ne voulait pas que ça sorte. Tout a été détruit, balancé à la flotte au Brésil. Enfin voilà, c'est il y a pas de retour en arrière.
Alors par contre, donc effectivement, ça paraît difficile, ça paraît improbable qu'on retrouve ces morceaux de film.
On a envie d'y croire.
Mais improbable, mais pas impossible, puisque c'est déjà arrivé. On a trouvé quand même il y a une quinzaine d'années la version quasiment complète de Metropolis, par exemple. Régulièrement, on tombe comme ça sur des bobines, soit chez des particuliers, soit dans des caves de cinémathèque.
Alors souvent, c'est des copies de copies. Donc l'image, par exemple, Metropolis, la version intégrale, il y avait déjà eu une version intégrale qui a été refaite avec des bouts. Ils ont retrouvé encore un autre bout qui fait qu'elle dure encore plus longtemps. L'endroit qu'ils ont rajouté, quand on regarde, sorti en vidéo il n'y a pas très longtemps, c'est pas la même qualité, parce que souvent des copies de copies, mais en effet, ça existe et ça a le mérite d'exister. Mais Méliès aussi, c'était les fameux films de Méliès qui étaient aux États-Unis qu'on a retrouvé après, qui avaient été étiquetés autrement, enfin voilà,
le voyage dans la lune de Méliès qui a été retrouvé, même chose, il y a une quinzaine d'années en couleur. Alors,
oui, c'est ça.
Couleur de l'époque, c'est-à-dire peint à la main, image par image, mais quand même, voilà, qui a été sorti donc il y a une dizaine d'années par Lobster Film.
Ouais.
Et qu'on salue aussi d'ailleurs pour leur
qui
super
font un
boulot.
Travail, ouais, hallucinant. Et donc pour ce qui est du Brésil, tout ce qui a été tourné finalement par Wells au Brésil, tu parlais de la couleur, il a filmé le carnaval en couleur, tout ça a été perdu. Ouais. Donc je pense à jamais. Et donc il reste quand même des images en noir et blanc qui ont été finalement montées dans un documentaire qui s'appelle It's All True.
Alors justement, ce film devait s'appeler It's All True.
Oui.
Ça devait être un film en trois parties, pseudo-documentaire, sur le Brésil, sur des histoires comme ça un peu édifiantes du Brésil. Une première partie devait être tournée par son pote Norman Foster. Il n'y a eu que trois scènes de tournée.
Un enfant avec un taureau, en effet. Voilà. Une sorte d'un enfant avec un taureau.
Mais ça a été conservé. Et puis, donc, toute la partie du milieu, sur le carnaval en couleur balancé, c'est bien dommage. Ouais. Et puis, donc, cette dernière partie existe, même chose, et a été retrouvée, pareil, dans des caves... c'était plutôt dans les années 80, mais a fait l'objet donc d'un documentaire qui reprend le nom du projet de base, donc It's All True, que j'ai vu donc il y a pas longtemps. Et bon, il y a une partie documentaire dans ce documentaire où on interview les gens sur place qui sont donc vraiment des gens qui vivent encore dans des favelas au Brésil. Et bon, déjà c'est assez passionnant parce qu'on nous raconte toute l'historique. Et puis donc à la fin, on a quand même ces 30-40 minutes de ce film qui est sur une jangada, en fait, qui est un radeau en rondin de bois, enfin en tronc d'arbre, qui est en fait une barque de pêcheurs au Brésil, et de l'histoire assez rocambolesque qui avait eu lieu juste avant, donc d'une jangada qui a été pilotée par quatre pêcheurs, donc qui ont été jusqu'à Rio pour essayer de faire valoir leur droit à avoir en fait en gros une sécu, quoi, et que c'était dans l'air du temps et ça avait fait beaucoup parler, et puis ils ont essayé voilà de faire pencher le dictateur de l'époque pour ça. Et donc Wells arrive là-bas alors que ça vient d'arriver, donc il veut tourner le documentaire avec les quatre mecs qui ont d'ailleurs participé à ça, mais puisque Wells n'a vraiment pas de chance, pendant le tournage, l'un des quatre hommes meurt noyé.
Ouais, alors, ouais, ça voilà. C'est vraiment pas de bol. Du coup, après, du coup, les habitants n'ont pas tenu rigueur. Là, c'est un accident. Voilà,
c'est vraiment arriver,
mais c'est vrai que c'est vraiment, voilà, en voulant rejouer en fait la scène pour leur rendre hommage, il y a un des trois ou quatre qui se noie en fait dans un accident. Et ce qui met aussi un peu un coup d'arrêt aussi au projet, évidemment, quoi.
Ouais. Et par contre, donc ce film existe et n'a pas de son. Donc c'est un film muet, et c'est, alors j'ai trouvé ça extraordinaire, je l'ai vu il y a très peu de temps.
Je crois que la voix off du coup a été refaite par Jeanne Moreau, qui du coup, non c'est pas Jeanne Moreau du coup sur celui-là.
José Ferrer a fait une voix off, mais d'accord. De la partie documentaire, le film d'accord. Lui-même est vraiment muet avec de la musique, et c'est passionnant parce que Wells, on sent qu'il s'est formé avec le cinéma muet. Mmh. On dirait du Eisenstein, on dirait du Kalatozov aussi, on dirait celui Kuba, quoi, ça ressemble vraiment, en plus c'est un peu le même type de projet, et c'est vraiment magnifique. Avec en plus voilà ce côté valorisation d'un peuple autochtone.
Ça a justement posé des soucis parce que du coup l'idée en fait quand Wells est arrivé, alors évidemment c'était très protocolaire, hein, parce qu'on le dit c'était vraiment pour la bonne entente entre les deux pays, donc il va voir le président et tout ça, et en fait le problème c'est que Wells en fait ce qui l'intéresse c'est cette histoire là donc déjà marquée politiquement, hein, de pêcheurs qui vont voir le président en disant il faut faire des choses pour nous, et surtout en fait ce qui l'intéressait lui c'est d'aller de filmer dans les favelas justement comme tu disais, et ça c'est pas du tout passé, c'est à dire que voilà au Brésil, en fait, le gouvernement a dit c'est quoi ce mec que vous envoyez, tout ce qui l'intéresse, en fait, c'est d'aller filmer les favelas. Nous, c'est pas l'image du pays qu'on veut donner. Mmh. Et lui, c'est ce qui l'intéressait, voilà, le côté populaire. Donc, ça a été un gros souci. Et du côté des États-Unis, c'était pareil. C'est-à-dire que les images qui sont envoyées, il y a des mémos du studio qui sont extrêmement violents, où en fait, ils disent Wells, là, il est en train de filmer des nègres en train de danser, on veut pas voir ça, quoi. Donc, c'est extrêmement violent.
Ouais,
c'est extrêmement violent. Et lui, il s'intéresse aussi. Il y a un moment, il avait envisagé de faire aussi une petite partie de ce film-là sur le jazz, en fait. Et voilà, sur il avait pas mal de projets
samba.
Comme ça, la samba, voilà, et puis un peu l'influence jazz, et le jazz aussi, c'est voilà, aux États-Unis il avait un projet aussi là-dessus, et donc la culture noire et tout ça, et voilà, ça revient aussi beaucoup dans ses engagements politiques antiracistes, et les studios à l'époque ne voulaient évidemment pas en entendre parler, c'est-à-dire que voilà, d'aller filmer le carnaval en fait métissé, tout ça du Brésil, c'était pas du tout en fait eux dans leur projet ni des États-Unis ni en fait du Brésil, c'est pas du tout l'image qu'ils voulaient donner dans ce film-là,
voilà.
Il l'a fait quand même. Mais au final, le film n'est jamais sorti et on a des bribes du coup qui ont été remontées dans ce documentaire qui est sorti en 93.
Ouais. En tout cas, il n'a pas été achevé.
Ouais.
Donc, en trois films déjà, là, il y en a 1 et donc qu'il a mené à bien mais qui a provoqué un tollé et qui n'a pas été trop vu, hélas, même s'il marquera l'histoire du cinéma, bien sûr. Un deuxième qui lui échappe au niveau du montage et un troisième donc qui n'est pas terminé.
C'est la fin de Wells à Hollywood. C'est-à-dire que c'est, en fait, il y a un gros malentendu, c'est que Wells, en fait, c'est un réalisateur de films d'auteur, en fait. Enfin, quand on regarde ce qu'il fait, c'est vraiment l'expérimentation. Voilà, il n'est pas là pour faire des grands films qui vont marcher. Alors, même si, du coup, il a essayé, hein, il a fait des films, on va dire... pas de commande, mais pour faire plaisir, on va dire aussi, et pour montrer, en fait, voilà, le criminel, The Stranger, notamment, il dit que c'est un film qu'il a fait pour montrer qu'il pouvait faire des films un peu comme les autres et qui marchaient commercialement. Et d'ailleurs, ça a été le cas, il a plus ou moins bien marché, ce film, qui est une histoire, voilà, il joue un nazi, en fait, caché dans une ville américaine, un ancien nazi qui se cache dans une ville américaine, avec notamment, dans ce film-là, des vraies images des camps de la mort, ce qui n'existait pas, en fait, à l'époque, ça n'avait pas été fait, en fait. Il a vraiment insisté pour que ce soit vraiment une image, voilà, documentaire, en fait, un extrait dans ce film-là. Mais à part ça, en fait, le gros malentendu, c'est qu'en fait, Wells, c'est un expérimentateur. Ouais, ça existe, ce mot.
Oui.
Et donc, il fait en fait des films d'auteur. Il a été proposé à Hollywood et il s'en est fait très vite dégager, puisque évidemment, c'était pas du tout dans l'esprit de ce qu'attendaient en fait les studios.
Mais alors, pendant quelques années, quand même, il va rester un peu satellite à Hollywood.
Il va essayer, donc, ouais, en effet. Alors, The Stranger, le criminel en français en 1946, donc ça qui est sorti, qui était vraiment fait pour dire aux studios, bah regardez, je peux faire un film qui. Dans les budgets, dans le temps, parce qu'évidemment, il y avait un peu tendance à passer un peu les budgets, et qui fonctionne, et c'était plutôt le cas. C'est un peu, voilà. C'est pas forcément le film le plus intéressant de Wells, mais en tout cas, il a le mérite d'exister, d'avoir plus ou moins bien rapporté, en tout cas, ce qu'il avait coûté.
Et puis un film qui coûtait moins cher aussi, probablement. Que ses projets précédents.
Oui, c'est ça, oui.
Et puis aussi un film où, finalement, il a quand même accepté les conditions, puisque c'est pas lui la star du film, c'est le méchant. La star, c'est quand même Edward G. Robinson.
Exact.
Donc, il accepte de... Alors, même, c'est une co-star, on va dire. Oui. Donc, il accepte d'être pas tout seul en haut de l'affiche.
Ouais, et en sachant qu'il voulait que la... que le détective qui recherche en fait le criminel nazi en fait soit Agnès Moured.
Ouais.
Il voulait que ça soit du coup cette actrice géniale de sa troupe de théâtre, et là-dessus il a dû lâcher, parce que le studio a dit non, mais elle est pas assez connue, on va mettre un homme qui a déjà une carrière importante pour amener les gens dans les salles.
Ouais, mais c'est un film vraiment intéressant où on retrouve en plus pas mal de ses obsessions, notamment dans le fait qu'il aime jouer des personnages indéfendables, mais qu'il défend. Alors, il défend, attention, il défend en tant que personnage.
Oui, bien sûr.
Pas bien sûr moralement, mais
non, parce que c'est un peu compliqué.
C'est un nazi, quoi. Un peu comme Richard III, ou Macbeth, des personnages qui l'intéressent parce que ce sont des anti-héros purs et durs. Ils sont méchants, mauvais, mais grandioses dans leur méchanceté quelque part.
Et fascinant.
Et fascinant, donc. Et c'est exactement le cas de son personnage. Donc ça, c'est en 1946.
Oui, et puis en 1947, il fait The Lady from Shanghai, donc avec Rita Ewers.
C'est un peu plus grosse production, là, pour le coup.
Alors là, c'est un peu plus grosse production. C'est basé sur... Alors des fois, comme il a fait, c'est-à-dire que c'est un livre qu'il a lu dans une gare, vite fait, espèce de polar qui vaut pas grand-chose. D'ailleurs, l'histoire... voilà, c'est la première fois que j'ai vu le film, j'ai décroché, c'est-à-dire qu'au niveau de l'intrigue...
Il y a une histoire ?
Ouais, c'est ça, c'est que c'est de la trahison sur trahison. Alors, on retrouve la trahison, qui est beaucoup dans les films de l'Ouest. Alors, souvent, c'est la trahison entre amitié entre hommes. Alors là, du coup, c'est la trahison de la femme, Rita Ewers. Donc, il a mis en blonde, à l'époque, ce qu'il y a une série, le studio, qui bossait avec Rita Ewers, parce qu'évidemment, c'est la rousse fatale. Et donc, mais non, il a fait non, je veux qu'elle soit blonde dans ce film-là.
Rita Ewers, donc grande actrice, alors qui n'a pas eu une énorme carrière, hélas.
Tragique. Il est en train de se séparer à cette époque-là, parce qu'il était marié avec elle. C'est partie d'une des femmes avec qui il a eu une de ses trois filles. Mais en effet, c'était un an après, le film sort, après la sortie du film, un an après, il divorçait, en fait. Elle est pensée pouvoir peut-être le récupérer en faisant ce film-là. Un petit côté un peu tragique, et puis après ses problèmes de santé, après elle a eu une vie évidemment très tragique après.
Et le film n'est pas un énorme succès, il me semble, mais
non, il y a des choses très intéressantes après dans le film. En fait, c'est comment il part d'une histoire qui est une espèce de polar un peu alambiqué, et par la scène notamment vers la fin, où une espèce d'image comme ça, c'est presque du surréalisme en fait, où il se cache dans les manèges et tout ça. Enfin voilà, il y a, des, y a des scènes, et puis la scène des miroirs qui est, qui est incroyable.
Scène des miroirs, donc où les deux personnages sont reproduits comme ça à l'infini, et essaient de se chercher, qui a été aussi beaucoup parodié, repris.
Évidemment.
Je pense au jeu Enter the Dragon avec Bruce Lee aussi, notamment, à la fin. Et, quand même, il n'était pas complètement un paria d'Hollywood, puisqu'on lui a, on continue à lui proposer des films, il continue à réaliser. Même chose, peut-être que le fait qu'il y ait Rita Hayworth dans le film lui ait permis de faire le film.
Oui, sans Rita Hayworth, il n'y avait, avait pas le film. Ça, clairement. Et puis après, c'est aussi des. Alors, du coup, après, il s'est exilé, mais un peu plus tard, il a fait La Soif du Mal, donc Touch of Evil, en 58. Ça, il le fait parce qu'en fait, c'est Charlton Heston. C'est-à-dire que Charlton Heston doit jouer dans le film. Et en fait, on dit, bon, ben, tiens, on va mettre Orson Welles dans le rôle du flic qui est corrompu. Encore un personnage moralement indéfendable. Et en fait, c'est Charlton Heston qui fait, ok, moi je fais le film si c'est Welles qui réalise. Sinon, je le fais pas. Donc en fait, pour avoir Charlton Heston pour avoir la grande star, le studio a dû dire, Universal a dû dire, ok. Eh ben, c'est Welles qui le fait, mais en fait sans l'acteur qui demande le réalisateur, jamais Welles aurait fait ce film-là. Donc c'est presque pas des erreurs, mais des circonstances qui font qu'il arrive à faire des films, on va dire, dans le système hollywoodien, mais un peu de façon par la petite porte, quoi, dérobée. C'est-à-dire que personne n'allait le chercher au début. Personne n'a dit, tiens, ce film-là, c'est Welles qui va le faire.
Ouais, et puis c'est surtout pas lui qui l'a proposé. Lui-même.
Non, oui, voilà. On lui a dit, est-ce que tu veux faire ? Évidemment, je pense que le rôle, il a dit, ouais, c'est cool. et puis, bah, il a pu, du coup, faire pareil, faire son intro, là, ce plan séquence de La Soif du Mal, qui est incroyable.
Ouais, le film s'ouvre sur un plan séquence. Ouais. Alors, aujourd'hui, les plans séquences, depuis une dizaine d'années, c'est très à la mode. C'est même devenu un peu galvaudé, finalement, parce que c'est plus facile à faire aujourd'hui avec la magie du numérique. Ça l'était beaucoup moins avant, ça l'était encore beaucoup moins dans les années 50 avec des caméras très lourdes et qu'on pouvait pas porter à l'épaule, enfin pas celle d'Hollywood en tout cas, je pense, parce que deux ans après on fait la bout de souffle, hein, donc on peut quand même. Mais voilà, c'est très compliqué de faire des plans séquences. Puis en plus, pourquoi
C'est-à-dire... Oui, est-ce que ça raconte quelque chose? C'est-à-dire que là, en fait, dans le plan séquence dans Touch of Evil, ça suit du coup le trajet d'une bombe dans un coffre de voiture, donc ça a un sens en fait, parce que non, faire un plan séquence pour faire un plan séquence, ça n'a pas trop de sens. Mais voilà, et ce qui est intéressant, c'est que maintenant avec la vidéo, on a plusieurs versions des films. Ça aussi, c'est quelque chose. Un film de Welles, souvent, il n'y a pas un film de Welles, c'est-à-dire qu'il existe en deux, trois versions. Mister Arcadine, Dossier Secret, il existe, je crois, en quatre ou cinq versions. Une version Europe, une version remontée. Enfin voilà, on défend, voilà, pour les spécialistes, on s'y perd un peu. Mais par exemple, La Soif du Mal a été. Ils ont rajouté du coup de la musique en fait sur ce plan séquence et mis les titres en fait par-dessus. Du générique, et en fait c'est pas ce que voulait Welles, c'est-à-dire qu'il y a une version qui est ressortie, je crois que c'était pour les 40 ans en 98 du coup, Universal a ressorti en Blu-ray, DVD, en vidéo le film, et donc on a la version selon les mémos de Welles, et donc ils ont reconstitué en fait la version qu'ils voulaient lui, c'est-à-dire sans musique au début. Il était pas trop pour la musique trop présente en fait dans les films, et beaucoup de ces films ont été un peu subverti comme ça par suivant, en rajoutant de la musique un peu partout, plus ou moins bonne d'ailleurs, parce que bon, Citizen Kane, il avait Herman, donc Bernard Herman qui bossait avec Hitchcock, donc niveau musique, ça se tient. Voilà, certains films, la musique a été rajoutée, c'était pas forcément du niveau de Herman, quoi.
Et du coup, La Soif du Mal, c'est 58, c'est déjà 10 ans après son dernier projet à Hollywood.
Oui, entre-temps, il s'est exilé. C'est-à-dire que, voilà, il a bien compris que les studios américains, c'était très compliqué, et donc il est venu en Europe, et donc il y a eu énormément de films tournés en Europe.
On en parlera tout de suite, mais en tout cas, cette tentative de film à Hollywood où il ne montrait pas de blanche, pourtant où il acceptait quand même les contraintes, où il rendait un film dans les temps et dans le budget, ça ne l'a pas finalement remis sur les rails d'Hollywood. Il a été obligé quand même de re-s'exiler après 58. Ouais. Mais on va revenir là-dessus juste après une page musicale. On va écouter. Alors là, je ne connais pas. C'est un groupe qui s'appelle Logic.
Alors, c'est un rappeur, en fait, c'est, okay. qui a sorti. En fait, c'est son nom. Alors, c'est ce qu'il a annoncé parce qu'il est devenu père machin. Donc maintenant, il dit j'arrête le rap. Donc, c'est normalement son dernier album qui est sorti là en 2020, et en fait il a repris en fait pour l'intro et la fin de son album la voix de Welles, et là ce qu'on va écouter en fait c'est Ah, Obediently Yours, très difficile à dire. C'est un peu la signature de Wells en radio. Il finissait tout le temps ses émissions en disant ça, un peu votre serviteur, voilà. Jusqu'à la prochaine fois, voilà, on se retrouvera. Et donc, en fait, là, ça reprend un épisode de Orson Welles Commentaries, qui était une de ses émissions en radio, où toutes les semaines, en fait, il venait à la radio et il disait ce qu'il voulait. Et souvent, c'était très politique. Et en fait, ça reprend du coup une des émissions. Et là, ça reprend celle, en fait, où Isaac Woodward, qui était un soldat vétéran noir, revenait en fait aux États-Unis après la guerre. Et en fait, s'est fait tabasser par un policier et est devenu aveugle. Et du coup, Wells, en fait, toutes les semaines, a mis la pression pour qu'on retrouve ce policier et qu'il soit jugé, en fait, comme il faut. Donc ça, c'est un extrait. Et ce qui est assez hallucinant, c'est que dans ce qu'il dit, depuis les États-Unis, voilà, il y a eu George Floyd, mais avant, il y a eu évidemment plein de choses.
Ça s'est jamais arrêté, quoi.
Et en fait, ça fait presque froid dans le dos, parce que ce qu'il dit, en fait, sur le racisme systémique aux États-Unis, il aurait pu, en fait, enregistrer ça hier, quoi.
Ok, on écoute ça et on se retrouve après dans 100 ans de cinéma dédié à Orson Welles avec notre invité Marco Pierrard. À tout de suite.
I've spoken these words before, but not on the radio. To be born free is to be born in debt. To live in freedom without fighting slavery is to profiteer. I have met Southerners who expect and fear a Negro insurrection. I see no purpose in withholding this from general discussion. There may be those within that outcast 10% of the American people who someday will strike back at their oppressors. But to put down that mob, a mob would rise. I'd like to ask, please, who will put down that mob? I'm an overpaid producer with pleasant reasons to rejoice, and I do, in the wholesome practicability of the profit system. But surely my right to having more than enough is canceled if I don't use that more to help those who have less. I owe the very profit I make to the people I make it from. If this is radicalism, it comes automatically to most of us in show business, it being generally agreed that any public man owes his position to the public. That's what I mean when I say I'm your obedient servant. We must each day earn what we own. A healthy man owes to the sick all that he can do for them. An educated man owes to the ignorant all that he can do for them. A free man owes to the world's slaves all that he can do for them. And what is to be done is more, much more than good works, Christmas baskets, bonuses and tips, and bread and circuses. There is only one thing to be done with slaves. Free them. If we can't die in behalf of progress, we can live for it. Progress, we Americans take to mean a fuller realization of democracy. The measure of progress, as we understand it, is the measure of equality enjoyed by all men. We can do something about that. The way our fighting brothers and sisters looked at it, some of them dead as I speak these words, the way they looked at it, we're lucky. And they're right, we're lucky to be alive, but only if our lives make life itself worth dying for. We must be worthy of our luck or we are damned. Our lives were spared, but this is merely the silliest of accidents, unless we put the gift of life to the hard employments of justice. If we waste that gift, we won't have anywhere to hide from the indignation of history. I want to say this. The morality of the auction block is out of date. There is no room in the American century for Jim Crow. Tomorrow's democracy discriminates against discrimination. Its charter won't include the freedom to end freedom. Race hate isn't human nature. Race hate is the abandonment of human nature. But this is true. There are alibis for the phenomena, excuses, economic and social, but the brutal fact is simply this. Where the racist lie is acceptable, there is corruption. The race haters must be stopped. The lynchings must be stopped. The murders must be avenged. I come in that boy's name and in the name of all who in this land of ours have no voice of their own. I come with a call for action. This is the time for it. I call for action against the cause of riot.
it won't surprise me if I'm accused in some quarters of inciting to riot. While I'm very interested in riots.
Le cinéma, de B à Z et de A à X.
Ouais, de retour dans 100 ans de cinéma avec notre invité Marco Pierrard pour parler, pour continuer à parler de cette carrière impressionnante, de cette vie impressionnante, celle d'Orson Welles. On continue, donc on en est à Orson Welles est maintenant mal vu par Hollywood. Il essaye d'y retourner de temps en temps en acceptant des plus ou moins commandes. Et parfois, ça donne d'excellents films, enfin la plupart du temps d'ailleurs. Des films, en tout cas, ils sont tous recommandables, hein, vous pouvez tous les voir. Et ensuite, donc, il va commencer pour un peu, justement, pour pouvoir continuer à faire des films, à chercher d'autres sources de financement. Et notamment pour ça, il va aller en Europe.
Oui, exactement, comme il a bien compris qu'il était un peu cramé à Hollywood et que c'était très compliqué de faire des films. Finalement, il s'exile en Europe et donc là, il fera énormément de films, beaucoup d'adaptations de Shakespeare. Donc, on trouve Macbeth en 48, Othello en 52, Mr. Arcadie, donc Dossier Secret, dont on parlait en 55.
Alors, c'est pas du Shakespeare, ça, mais...
Oui, alors oui, les deux premiers, Arcadie, non. Il a adapté aussi, du coup, Kafka avec Le Procès, avec Anthony Perkins.
Alors, compliqué déjà, parce que Le Procès, c'est donc un bouquin qui n'est pas fini de Kafka.
Ouais.
Et Orson Welles finit pas vraiment Le Procès non plus.
Il prend une, oui, il prend, on va dire, ouais, on va pas dévoiler la fin, mais c'est vrai qu'il prend une option différente que dans le livre en tout cas, voilà, qui, on va dire, un peu réactualisée, voilà, et qui est tournée dans la gare d'Orsay d'ailleurs, puisque du coup la gare d'Orsay était désaffectée à l'époque, avant que ça devienne le musée qu'on connaît maintenant. Et voilà, et Orson Welles était à Paris et le soir il voit deux lunes. Alors, il y avait la vraie lune et il y avait les lumières de la gare d'Orsay. Il a visité ça, il fait, mais c'est génial. En fait, c'est exactement un truc désaffecté. C'est ce qu'il me faut, en fait, pour faire Le Procès, quoi. Voilà, donc c'est, ouais, un film aussi. Puis Anthony Perkins, qui est un acteur, de toute façon, incroyable et qui est dedans vraiment... vraiment, vraiment exceptionnel. Et donc, tous ces films-là, souvent, sont faits avec des bouts de ficelle. Et souvent, sous plusieurs mois, voire plusieurs années. Souvent, voilà, Welles refaisait les voix par-dessus, parce que du coup, les moyens, c'était plus simple, en fait, de tourner, de réenregistrer les voix par-dessus. Avec sa pratique de la radio, évidemment, ça aidait. Et donc, tous ces films-là, de ces périodes-là, un peu d'exil, sont connus pour, voilà, fait... Le Macbeth s'est tourné sur un plateau, en fait, où il faisait des westerns. Voilà. Donc, souvent, il utilisait d'autres plateaux. Des fois, il jouait, lui, en tant qu'acteur, et il en profitait, en fait, pour tourner un peu en loose day, sans des autorisations, des bouts de films qu'il mettrait après lui dans les siens. Donc c'est vraiment, en fait, une carrière qui est marquée par le fait qu'il était tout le temps en recherche de financement. Et pour ça, il jouait dans d'autres films plus ou moins bons, mais voilà, ça lui faisait de l'argent pour financer ses propres films.
Alors c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et on va pas trop en parler, mais c'est quand même important. Orson Welles, il est connu du public américain et mondial alors, pour ses films, mais surtout à partir des années début des années 50, pour tous les films qu'il va tourner pour d'autres, parfois dans des très bons films, parfois pour des grands réalisateurs comme John Huston, et puis ou même d'ailleurs Pasolini pour un sketch dans un film choral. Et donc voilà, c'est quand même une figure qui restera connue. Il va faire des publicités aussi,
beaucoup de télé, beaucoup invité des talk shows, parce qu'évidemment, bah, c'était Orson Welles en invité talk show jusqu'à la veille de sa mort, quelques heures avant sa mort, et il était encore dans un talk show américain à revenir sur Citizen Kane et sa carrière.
Un bon client, comme on dit.
C'est un très très bon client sur les talk shows. En effet, vous pouvez voir plein d'extraits sur internet. C'est très très bon client à chaque fois.
Il a aussi pas mal tourné, alors juste petit aparté, avec Richard Fleischer, notamment dans Le Génie du Mal, qui est un film extraordinaire. Et Fleischer, c'est un très grand réalisateur qui est assez qui est carrément sous-estimé, notamment peut-être à cause de la fin de sa carrière. Il avait fait Conan 2, qui était pour moins bon, effectivement, mais quand même, c'est un réalisateur vraiment ouf, et qui utilise très bien Welles.
Dans ce film-là, en effet, qui est Compulsion, je crois, le titre original de... Parce que moi, j'avais celui-là en tête.
Peut-être.
Où il est avocat.
Il est avocat,
oui. Exactement, c'est celui-là, Donc, là aussi, on peut vous le conseiller. Un très bon rôle de Welles, parce que Welles, en tant qu'acteur, ne fait pas forcément l'unanimité. Il y a des gens qui trouvent qu'il en fait trop.
Il est très théâtral.
C'est ça, c'est très théâtral. Donc voilà, certains ont un peu plus de mal. Et du coup, il y a des rôles où ça s'y prête, on va dire, un peu mieux, on va dire.
D'ailleurs, ce côté théâtral, il va aussi... il va beaucoup jouer, donc, pour parfois donc des petits rôles, d'ailleurs. Alors, il est toujours quand même sur l'affiche à un moment, quoi, parce que c'est quand même Orson Welles.
Ça aide à vendre un peu le film aussi, quand même, de dire que Welles dedans.
Mais bon, ça ne l'aidait pas à faire des films, mais ça, c'est autre chose. Et il a également beaucoup prêté sa voix, donc, notamment pour Alors bon, ça c'est un peu l'anecdote, mais pour des films d'animation, des fois, enfin surtout pour un film d'animation qui sera en fait son dernier projet.
Ouais, qui sortira après sa mort, puisque le film sort en 86, il est en octobre 85, et c'est The Transformers The Movie. Donc ouais. En fait, il y a toute une génération. Pour eux, Orson Welles, c'est la voix de la planète Unicron dans le film des Transformers.
Alors,
mais pourquoi pas
Transformers, du coup, bon, maintenant il y a eu 5-6 films réalisés par Michael Bay qui sont fascinants. À défaut d'être très bon, mais dans les années 80, donc Transformers est avant tout une ligne de jouets, et en fait ils ont Hasbro, a commissionné en fait des dessins animés pour vendre les jouets.
Ouais, c'est le premier gros film long métrage. Voilà, c'est Transformers The Movie en 86, et ils sont allés chercher Orson Welles. Voilà, c'est payé. Ça le faisait un peu marrer. Genre, je suis la voix de quoi, d'une planète. Voilà. Bah, ok, si tu veux. Voilà.
Voilà, donc c'est son dernier rôle finalement à l'écran, mais il joue une planète.
Ah, oui, c'est ça.
C'est quand même chouette.
C'est à l'image en fait, du personnage, on va dire. Pas jouer autre chose qu'une planète.
Voilà. Parce qu'en fait, c'est des robots, et donc lui, c'est une robot qui fait la taille d'une planète. Et qui s'appelle Unicron.
Enfin, exactement.
C'est vraiment juste pour l'anecdote. Et donc, revenons à son côté théâtral, parce que tu parlais de Macbeth. Macbeth, qui est un film assez extraordinaire, une très belle adaptation donc, de la pièce écossaise dont on ne dit pas le nom, de Shakespeare. Il joue bien sûr le rôle principal, celui du rôle-titre. Et dans les décors, dans les costumes, on est quasiment sur une scène de théâtre. Sauf que la caméra est plus mobile, mais on retrouve les mêmes types de maquillage, tout en ombre et lumière, avec des costumes assez aberrants, enfin qui n'ont aucune vérité historique, mais c'est pas grave. On est vraiment dans une représentation très finalement moderne. C'est très théâtre moderne.
Après, je pense que en partie c'est pas voulu, parce que c'est vraiment tourné sur un plateau de série B, quoi. C'est-à-dire que je crois que c'est Republic Pictures où il a tourné. Je sais plus quel.
C'est quasiment du Corman, quoi.
Oui, voilà. On n'est pas loin de Roger Corman. C'est du carton plate, hein, le décor. Mais la façon dont c'est éclairé, la façon dont c'est filmé, ces plans font qu'il y a des plans sublimes en fait dedans, et on oublie un peu qu'en effet ça n'a c'est vraiment filmé à l'arrache, c'est-à-dire qu'avec très peu de moyens et par le montage, par l'éclairage, par le jeu, voilà, il en fait quelque chose qui est assez incroyable.
Ben ouais, et qui est vraiment intéressant. Puis ensuite, donc, il fait Othello qui va quand même remporter la Palme d'Or.
Oui, à Cannes. C'est vrai que les récompenses sont pas forcément nombreuses. Alors, à la fin de sa vie, il a eu des récompenses pour
truc d'honneur.
Exactement. Ou des fois, il allait en espérant rapporter de l'argent pour ses tout derniers projets, parce qu'en fait, il a bossé il a essayé de faire du coup ses projets jusqu'à la fin de sa vie. Évidemment, ça ne fonctionnait pas comme il voulait. Et en effet, Othello a gagné la Palme d'Or en 52. Une petite récompense, pour un film là aussi fait comme les autres. Othello, il a tourné dans plusieurs pays.
Alors officiellement, c'est un film marocain.
Oui, c'est ça.
Donc je crois que c'est la seule Palme d'Or marocaine de l'histoire du Festival de Cannes. C'est cool. Et c'est aussi un film qui est très réussi. Il joue là encore le rôle titre, bien entendu. Alors, il est un peu grimé, effectivement, parce qu'il est censé jouer le mort de Venise.
Parce que, à l'époque, rétrospectivement, on dirait, il y a un peu du blackface dedans. Ouais. Voilà. Donc, quand on revoit un peu l'histoire, c'est vrai que du coup, c'est pas...
Mais ça vient vraiment de sa formation théâtrale, au théâtre. Après, il faut revoir un peu tout son parcours pour comprendre que c'est pas du tout... une volonté raciste derrière, bien entendu, quoi. Othello était joué par plein de très grands acteurs avant qu'on se pose la question de savoir si c'était légitime ou non.
Avec le morceau qu'on vient d'écouter, et puis ce qu'on disait aussi sur le voodoo Macbeth, s'il y a une personne qui ne peut pas être trop suspectée de racisme en revoyant l'histoire, c'est clair que c'est Orson Welles, quoi.
Voilà, juste pour vous dire, vous arrêtez pas à ça, regardez ce film aussi, c'est vraiment très très chouette. Il concrétise certains de ses films à cette époque-là, notamment grâce à l'apport de fonds qu'il arrive à débloquer par-ci, par-là. Et le truc, c'est qu'il commence les projets avant même d'avoir la possibilité de les finir.
Oui, en fait, c'est-à-dire que dès qu'il y avait une personne... le caméraman était prêt, même s'il n'y avait pas forcément l'acteur, du coup on mettait deux dos et on s'arrangera après, on verra, on fait le contre-champ et on verra que, voilà, comment on fera le champ après. Voilà. Et voilà, le Othello, c'est ça, c'est-à-dire que quand la personne est de dos, c'est clairement, c'est une personne qui a été filmée 6 mois avant dans un autre pays, quoi, et il a fait le raccord après. Donc il y a une espèce d'ingéniosité aussi, c'est ça, ouais, c'est-à-dire qu'avec des bouts de ficelle, il a réussi à faire des vrais films qui tiennent la route. Par le montage et par son... Il imaginait, en fait, il avait le film dans sa tête et à des mois d'intervalle, il savait le raccord de ce qu'il avait filmé avant. Donc c'est assez... niveau conceptuel, c'est assez fort. Et tous ces films sont comme ça, et notamment Falstaff, qui je pense est le plus intéressant de ces films tournés comme ça, avec des petits moyens et sur plusieurs années. Shims at Midnight, c'est le nom d'origine, qui est sorti en 65. Et c'est un peu justement un film où, comme il a fait avec ses moyens, lui, là il avait vraiment la main en fait, un peu sur tout, et c'est un des films dont il était le plus fier. Et donc sur ce personnage en plus de Falstaff, donc, qui est tiré évidemment de Shakespeare, il a mélangé plusieurs pièces.
C'est Henri IV.
Alors il y a Henri IV et Henri III, enfin il y a plusieurs pièces en fait dans lesquelles il apparaît, et donc en fait il a basé sur le personnage de Falstaff, voilà, épicentre, il le joue, et du coup c'est le personnage, voilà, ce film là il faut le voir, cette scène du coup de répudiation, de trahison, c'est Wells en fait qui a été trahi un peu toute sa vie par les studios, par voilà, les gens qui ont raté de financer ses films, et finalement non. Et donc la scène est extrêmement poignante, et il y a une scène de combat. Le montage est juste, parce qu'en fait on s'en rend pas compte à cause du montage, mais en fait il y a plein de fois la même scène, il l'a mis à l'envers et tout, mais ça passe en fait, alors qu'en fait on se fait complètement voilà, en berlificoté en fait par ce truc là le montage fait qu'on voit un truc incroyable, alors qu'en fait il y a des scènes qui se répètent, enfin voilà, il n'y avait pas tant de matière que ça, et la scène est incroyable.
Il y a un vrai côté magie du cinéma.
Ouais, vraiment.
Et ça, tu vois la transition.
Je sens une transition venir là, ouais.
Puisque Wells, on n'en a pas parlé jusqu'ici, mais et depuis sa plus tendre enfance, est passionné par la magie, la prestidigitation.
Exactement,
ouais. D'ailleurs, alors il a assez rapidement, il s'est formé à ça, il amusait sa famille, ses proches, avec des tours de magie où il faisait apparaître un lapin, enfin ce genre de truc, où il escamotait voilà, une pièce, il la remettait derrière l'oreille, vraiment à l'ancienne, mais, mais il y voyait justement quelque chose d'assez fondamental, un lien avec le reste de son œuvre, celui justement de l'illusion. Et le cinéma, c'est notamment un des arts de l'illusion, comme tu viens de le prouver justement, puisqu'on peut vous faire croire que deux scènes qui ont été, enfin deux, même pas scènes, deux chants contre chants ont été tournés plusieurs mois d'intervalle, se passent en même temps, c'est quand même effectivement la magie du cinéma. À noter qu'à ses débuts, vraiment à son arrivée à Hollywood, il joue Cagliostro, donc dans une adaptation de Dumas, pour un film qui s'appelle Black Magic en anglais, et où il clairement, donc il joue ce personnage historique, hein, Cagliostro, qui a fasciné quelques décennies avant Mesmer les grandes cours d'Europe, avec justement c'est le début de l'hypnotisme en fait, et il était et donc il s'est délecté en jouant ce personnage dans un film qui est complètement un film de divertissement, mais qui est très agréable. Et puis donc après il va réaliser le dernier film qu'il aura complété finalement de son vivant, qui est un film qui est sorti pour la télé, qui est sorti qu'à la télé aux États-Unis, hein, si je dis pas de bêtises.
Tu parles du F for Fake.
Ouais.
Alors je crois même, il a peut-être dû être passé. Oui, je pense pas que oui, il est pas passé au cinéma. Je pense à l'époque. Et puis il est passé, bon, très inaperçu, jusqu'à récemment en fait, où les gens l'ont redécouvert avec la sortie en vidéo. Il y a notamment une édition chez Criterion qui font des éditions incroyable, avec plein de suppléments, voilà, aux États-Unis, mais aussi du coup en Angleterre, il y a des versions anglaises de ces DVD et Blu-ray. Et F for Fake, qui est un film, c'est un film essai, hein, c'est pas un film, c'est-à-dire que c'est un film de, comment dire, un film essai, quoi. C'est y a pas d'histoire en fait, hein, c'est vraiment lui qui se met en scène.
C'est vraiment un film expérimental.
Oui, c'est ça, c'est expérimental, et c'est un film sur une des thématiques qu'il adore, c'est-à-dire le vrai et le faux. C'est-à-dire que donc c'est un film qui est basé sur un faussaire. Qui faisait des fausses œuvres de peinture, et en fait, et sur, enfin, surtout sur le biographe officiel de ce faussaire. Et en fait, on s'est rendu compte que le biographe de ce faussaire, en fait, avait raconté n'importe quoi dans la biographie. Donc, c'est une fausse biographie d'un faussaire. Donc, c'est un truc, un espèce comme ça de mise en abîme. On sait plus trop où on habite. Et lui, maintenant, il revient sur sa carrière, il raconte des trucs vrais, des trucs faux, on sait pas ce qui est vrai, ce qui est faux, et le film commence en disant pendant la prochaine heure je vais vous raconter tout ce que je vous dis est vrai.
Ouais.
Et évidemment ça dévie puisque le film dure plus d'une heure, mais voilà, c'est vraiment c'est assez fascinant de montage aussi là encore, parce qu'il se base sur des documents, voilà, des morceaux de films et tout ça, et il en fait quelque chose, une œuvre expérimentale et qui est fascinante, vraiment fascinante,
très ludique. Ouais. Enfin ouais, ça c'est bon, déjà il faut le voir quand même peut-être mon avis plusieurs fois pour tout comprendre.
Ah oui, une bonne dizaine de fois pour avoir toutes les subtilités du truc.
Mais c'est absolument passionnant, donc F for Fake, et puis donc ça sera vraiment le dernier film qu'il va totalement terminer de son vivant. On va parler juste après d'une autre partie de sa carrière qui sont les films inachevés qui sortent d'une manière ou d'une autre dans un état ou un autre petit à petit. On en parle juste après une autre pause musicale avec Queen, Radio Gaga. Alors c'est toi qui l'as choisi. Alors pourquoi cette chanson très connue ?
Eh bien parce que à un moment du morceau, en fait, il parle justement de la guerre des mondes d'Orson Welles. Voilà, c'est très furtif, mais voilà, petit clin d'œil.
Super. Eh ben donc on écoute Queen tout de suite et on termine après donc ce diptyque sur Orson Welles avec Marco Pirard. A tout de suite.
Cinéma contre-attaque dans 100 ans de cinéma et des poussières.
De retour dans 100 ans de cinéma pour continuer à parler de la carrière et de la vie d'Orson Welles. Donc, une émission qui aura été faite en deux parties. Première partie diffusée en juillet et donc la deuxième aujourd'hui. Et toujours avec notre même invité, Marco Pirard, passionné de Orson Welles. Et on va donc terminer ces deux heures d'émission avec toute une partie qui a aussi fabriqué la légende d'Orson Welles et qui est finalement celle qui est la plus d'actualité. C'est la partie c'est les films qu'il n'a pas terminés, mais qui finalement nous arrive petit à petit au fil des années. On a parlé de It's All True qui n'a pas été achevé mais qui a quand même connu un documentaire franchement satisfaisant en 93. Et puis on a eu d'autres comme ça qui sont sortis petit à petit. Le nombre des projets que Wells a voulu faire mais n'a pas pu terminer et remplit une page entière de Wikipédia. Ouais. Mais certains ont eu quand même un vrai avancement, ce qui fait qu'on peut quand même en montrer une partie en suivant ce qu'il a pu écrire dessus, ses directives, ou pas du tout, comme par exemple le cas de son Don Quichotte.
Le Don Quichotte, qui est du coup emblématique, hein, de ces films qui ont été tournés mais pendant des années, puisque Don Quichotte, il a même commencé un peu avant, mais on peut dire qu'en gros, c'est 57-69. Donc 12 ans. Donc 12 ans de tournage pour un film. Entre-temps, son Don Quichotte est mort. Donc voilà, l'acteur est mort. Donc à un moment, il a retourné avec d'autres acteurs. Donc c'est, voilà, c'est vraiment pendant 12 ans de tournage. Enfin, personne ne fait ça, hein, voilà, par Boyhood, l'éducateur, mais c'est prévu à la base, hein, oui. De suivre les acteurs comme ça dans le temps.
Et puis c'est raisonné, il y a un cadre.
C'est ça. Alors que là, mais il y a quelque chose d'irrationnel. C'est-à-dire que le Don Quichotte, à la fin de sa vie, en interview, on lui disait quand est-ce que vous allez finir Don Quichotte, quoi. Ouais. Et, bah, quand j'aurai envie de le finir, en fait. C'est-à-dire le côté expérimental, et presque ce Don Quichotte-là, ce projet-là. Mm. Je pense qu'il savait que jamais il n'y allait sortir parce que voilà, le temps a tellement passé que ça, c'était très compliqué. Mais dès qu'il avait le temps, en fait, il tournait un bout de Don Quichotte dès que les acteurs étaient dispo. Voilà. Mm. Et voilà, il y a quelque chose comme ça aussi d'assez incroyable. C'est la façon dont des gens autour de Wells se mettaient à disposition, en fait, de Wells pour qu'ils puissent faire ces films-là. Faut à tout prix citer dans cette émission Gary Graver. Qui a été un des mecs qui allait voir Wells en disant bah voilà, moi j'adore ce que vous faites, je veux bosser pour vous. Voilà, et Wells ça fait ok, mais ça va être que j'ai pas d'argent, il fait je m'en fous. Enfin voilà, moi je veux bosser pour vous. Donc Gary Graver, il montait des films, notamment porno. Voilà, il y a une légende qui dit que quand il bossait sur The Other Side of the Wind, dont on va parler parce que c'est aussi très emblématique, Wells disait bah voilà, viens m'aider à faire le montage. Il disait mais non, mais je suis en train de monter un film porno et il y aurait soi-disant une scène de ce film 3AM qui est un porno qui serait monté par Orson Welles. Alors évidemment, par conscience professionnelle, je l'ai vu.
Exactement, moi aussi. Voilà. J'ai juste vu la scène, alors c'est pas porno.
Non, c'est une scène sous une douche.
C'est érotique. Quoi.
Voilà, et la façon dont c'est tourné, on se dit. Eh ben, c'est peut-être pas un mythe en fait. Parce que la façon dont est monté le truc, on se dit, ça pourrait être du Orson Welles. Voilà.
Et ça ressemble un peu au style de jump cut de cette époque-là.
Ce jump cut-là qui était très, on va dire en avance, on va dire en plus avant. Quoi, c'est, MTV n'existait pas quoi, à l'époque. Et donc, pour revenir sur le Don Quichotte, qui a été monté. Alors je mets les grands guillemets, ça se voit pas à la radio, mais par Jesus Franco, à qui on doit des films
chouettes,
et puis d'autres, voilà, un peu plus de séries B, enfin voilà, érotiques, voilà, qui sans trop prétention, quoi. Mm-hmm. Et donc ça a été monté en 92 et le résultat, honnêtement, est pas, voilà, est, bon, c'est compliqué de toute façon de dire qu'on va faire un film de Wells à la place de Wells, mais c'est vrai que
Quelque part, Franco a dit je vais faire un film de Jesus Franco à partir d'un film de Wells.
Oui, c'est vrai.
Un petit peu.
Mais c'est vrai que du coup, le Oja Kodar, qui est du coup la dernière amante, pas femme compagne. Officielle, mais compagne, on va dire, ouais, on peut dire compagne, de la vie d'Orson Welles ces dernières années, sur la fin de sa vie, du coup, avait donné l'accord. Et puis au final, on m'arrête pas trop, le résultat n'est pas forcément. Moi, j'ai vu du coup les rushs vraiment de blocs quand la Cinémathèque avait fait une spéciale Welles. Donc il y avait plein de choses comme ça qui venaient du Muséum de Munich, je crois, où il y a beaucoup de ses films inachevés. Et en effet, rien que les blocs en fait bruts déjà. Voilà, qui n'ont pas forcément été repris par Jesus Franco, il y a des choses assez incroyables, mais en effet ça sera un film, lui par contre on en est sûr qu'il ne sera jamais terminé parce que il est c'est impossible de finir le Don Quichotte de Wells parce qu'il l'avait lui dans la tête et voilà, il l'a porté pendant des années et je pense qu'au final il voulait en plus pas qu'il soit fini de toute façon, donc on peut le regarder comme un document historique quoi. On voit les rushs et voilà, ce qui n'est pas le cas.
À noter quand même que ça a aussi lancé la légende de la malédiction des adaptations de Don Quichotte, puisque quand Terry Gilliam essaiera de le faire, il n'y arrivera pas. Pour finalement y arriver avec un résultat aussi, alors il faut l'avouer, assez décevant, mais forcément décevant.
On attendait tellement du Gilliam, de Don Quichotte de Gilliam, qu'en effet la déception était grande.
Mais il faut aussi avoir ça en tête avec les films inachevés de Welles, parce qu'on les attend tellement que quand on les voit, on peut forcément aussi être un peu déçu.
Alors, moi, ça n'a pas été le cas sur The Other Side of the Wind, voilà. Qui a une histoire très compliquée. Parce qu'on disait tout à l'heure, tu disais le film qui a gagné la palme, du coup, était marocain. Ouais. The Other Side of the Wind n'est jamais sorti aussi parce qu'il a vu la bonne idée, en fait. Je crois que c'était le beau-frère du Shah d'Iran à l'époque qui avait financé le film. Donc, évidemment, ça complique les choses. Il y a tout un livre, sûrement, sur l'histoire de The Other Side of the Wind qui a été fait par Josh Karp. Je ne trouve plus le nom exact.
Karp.
Voilà. Orson Welles' Last Movie, The Making of the Other Side of the Wind. D'accord. C'est le nom du livre. Si vous le regardez, il est sorti en 2015. Et donc, c'était avant que le film du coup, sorte finalement sur Netflix, puisqu'il y a eu une campagne de crowdfunding qui n'est pas arrivée au bout. Et finalement, c'est Netflix qui a dit « Ok, on met l'argent pour finir ce film ». Et donc, vous pouvez le voir sur Netflix, The Other Side of the Wind, qui est un film incroyable. Je crois qu'il est... peut-être maintenant, il est ailleurs. Mais je sais qu'avant, il était en exclusivité sur Netflix.
Ouais. Non, c'est juste qu'on le trouve ailleurs parce qu'on emmerde Netflix.
Ah, d'accord.
Alors, pas vraiment, bien sûr.
Pas vraiment. Bah, ouais, voilà.
Merci d'avoir terminé le film.
C'est ça. Merci quand même d'avoir financé ce film, en sachant que du coup, celui-là est peut-être plus proche de la vision de Welles. Alors, évidemment, ce n'est pas un film d'Orson Welles. Alors, il est marqué, réalisé par Orson Welles, mais aussi parce que... déjà, il avait fait promettre à Peter Bogdanovich, le réalisateur, qui joue aussi un rôle dans le film, et il avait fait promettre à la fin de sa vie de finir le film. Donc, il y a quelque part une promesse qui est tenue, ça c'est assez joli. Et surtout, il avait donné un peu des directives assez précises, et surtout, il avait quasiment fini, c'est-à-dire qu'il a fait pendant des années. Et le film, en fait, il y a un film dans un film. Il y a un film imbriqué dans le film. Là aussi, c'est assez moderne là-dessus.
Mais tout avait été tourné.
Restait très peu de choses à faire, en fait, pour finir le film. C'est pour ça que c'est assez proche, au final. Et c'est vrai que c'est un film... c'est assez émouvant déjà de le voir, parce qu'on se dit, 40 ans après, le truc sort encore après plein d'embriguillos juridiques et de droits, et qui le financera. Et surtout qu'il a, il a lutté jusqu'à la fin de sa vie pour essayer de faire ce film-là, en fait, d'avoir les financements pour le terminer. Et pareil, il le filmait, c'est dans une voiture, c'est lui, je crois qu'il était à Paris à l'époque, dans son jardin, quoi, avec les gens qui jettent de l'eau par-dessus, les mecs qui passent avec des lumières pour faire croire que c'est... Voilà, c'est vraiment fait, mais avec aucun moyen, en fait.
Mais c'est je l'ai vu, alors c'est assez fascinant comme film, et puis c'est au moins il existe en plus, et puis ça, c'est vraiment pas un film anodin, je veux dire, ça parle d'un réalisateur qui est joué par John Huston, qui était un grand ami de Welles, qui lui rend l'appareil quelque part, parce que Welles a tourné dans pas mal de ses films, on l'avait dit là. Moby Dick, ouais, exactement. Et puis il joue donc John Huston, ce grand réalisateur qui termine un dernier film, mais pas vraiment, qu'il laisse un peu inachevé, et toutes ses relations lors de sa fête d'anniversaire avec son protégé qui est joué par Bogdanovich, et puis plein de...
les médias, la cour, quoi.
Cour, des parasites, mais aussi des amis, ou les deux. Et c'est vraiment intéressant dans ce que ça raconte, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'y voir une partie un peu autobiographique, d'autant qu'il l'a revendiqué.
Le sujet est clairement... Il n'aura jamais dit exactement que c'est autobiographique, mais évidemment, que c'est quelque chose qui le touchait comme sujet. Quand on le voit, évidemment, on voit Welles dans Huston sur plein de points, évidemment. Ouais.
Et en plus, Bogdanovich représente cette nouvelle génération du nouvel Hollywood, puisque c'est tourné dans les années 70.
Oui, il y a quelque chose de leur relation à eux, d'ailleurs, parce que pendant très longtemps, ils ont été fâchés, parce que Bogdanovich explosait avec la dernière séance, les films qu'il faisait qui marchaient très très bien. Et c'était un peu jaloux de ce jeune qui marchait très bien. Et pourtant, Bogdanovich n'a pas arrêté de dire qu'il doit... Welles, pour lui, était, comme beaucoup de réalisateurs et beaucoup de gens dans le cinéma, était la référence absolue, et dès qu'il pouvait l'aider pour essayer de financer les films. Mais c'était pas si simple que ça non plus. Donc il y avait une espèce de petite jalousie vers la fin. Et à un moment, ils se sont un peu brouillés.
Et on a également, juste pour la petite histoire, une apparition de Claude Chabrol, qui a un rôle parlant quand même, avec deux, trois phrases dans le film, et même un plan avec Stéphane Audran et Michel Duchaussois.
Oui.
Donc il y a
Denis Hopper. Denis Hopper, et d'ailleurs, il y a même avec les rushs, parce qu'il y a énormément de rushs. Il y a un documentaire qui a été fait là, que je n'ai pas vu encore, parce qu'il n'est pas encore dispo, mais il y a un documentaire, Conversation entre Orson Welles et Denis Hopper, un documentaire qui a été fait.
Il y a aussi un documentaire qui est sorti à peu près au moment qui s'appelle They Love Me When I'm Dead, déjà qui est un super titre.
Oui, c'est qu'aurait dit Wells à sa fille, tu verras quand je serai mort, ils verront un peu mon héritage. Quoi. Après, ce qu'il a vraiment dit ou pas. Mais...
Ils vont m'adorer quand je serai mort.
Et qui est sorti en fait, oui, au même moment que Netflix a mis le film. Et ça, alors, c'est un documentaire assez intéressant pour les gens qui ne connaissent pas trop Wells. Il est plutôt bien fait. C'est-à-dire que si on veut rentrer un peu dans l'univers de Wells, les films pas finis, voilà, son œuvre, il est intéressant, ouais. Il est vraiment intéressant ce documentaire.
On va devoir terminer cette émission. C'était vraiment extrêmement intéressant. Merci beaucoup Marco Pierrard donc d'avoir choisi cette thématique Orson Welles, un personnage tellement haut en couleur qu'il nous a fallu deux émissions pour vraiment parler jusqu'au bout de sa carrière, et c'était deux émissions très très remplies. Pour terminer tout de même, tu as participé à la campagne de financement de The Other Side of the Wind, ce qui fait qu'on voit ton nom à la fin dans le générique. Alors tu es quand même pas loin derrière des gens comme Wes Anderson, Sofia Coppola, etc.
Mais dans la masse, des gens qui ont voilà, on est un peu à part.
Dans la masse, mais il y a quoi ? Il y a une 30-40 noms, hein ? C'est pas non plus... T'as dû mettre un peu d'argent dedans quand même.
Oui, à l'époque, on y croyait à ce projet-là. Et puis on avait envie de voir le film, donc au final, heureusement que du coup Netflix là, a repris la main, on va dire, là-dessus. Parce qu'en effet, en fait, on peut noter, surtout c'est pas Netflix qui a repris, surtout qu'il n'y a aucun studio en fait, actuel n'a mis de l'argent. En fait, c'est-à-dire qu'ils rééditent les films de Wells en vidéo et tout ça. Mais personne n'était intéressé dans les studios, dans les grands studios historiques, on va dire, pour financer ce film qui vaut quand même le coup d'être vu et d'exister, hein, vraiment.
Exactement. On va terminer en musique et puis on se retrouvera le mois prochain donc, pour une nouvelle émission de 100 ans de cinéma avec une autre thématique cette fois-ci et une autre invitée, vous en saurez plus bientôt. Peut-être que d'ici là, peut-être dans les années qui viennent, on aura d'autres comme ça, projets inachevés de Wells qui vont réémerger. On ne peut que l'espérer. Marco, merci beaucoup. Très bonne fin de journée.
Merci à toi.
Et puis à vous, auditeurs et auditrices, également très bonne fin de journée. On termine en musique avec une chanson, c'est un peu du spoken words, d'Orson Welles.
Je ne sais pas d'où ça sort. Il a enregistré ça en 42. Ouais. Voilà, You Made Me Love You. Et oui, il parle plus qu'il ne chante.
Bah, c'est très bien. C'est Welles, jeune, donc, qui chante. Et ça craque un petit peu, comme c'est un vieil enregistrement. Au mois prochain et merci beaucoup.
Merci à toi.
I didn't want to do it. I didn't want to do it. You made me love you. And all the time you knew it. I guess you always do it. Oh, gee. Gee, Lana. I never get tired of looking at your picture. All the other guys got 15 or 20 pictures, all different girls. I used to have pictures of all the different movie stars until I found your picture. Now I'm ready to settle down. I guess I've always been crazy about you. I'll never forget you in Honky Tonk, where you were married to Clark Gable, and he was always leaving you to play poker. And you cried because you didn't think he was ever coming back. I wasn't so sure he was either. Gosh, how you cried. But at the end of the picture, he did come back, and then I cried. You won't remember this, Lana, but I met you once face to face. Honest Injun, I did. I was standing outside the canteen. You came rushing out the stage door and bumped into me, right smack into me. You didn't hurt me, though. You thought you did. You looked right at me and said, "I'm sorry," and patted me on the cheek. That was a year and a half ago, and I still haven't washed that spot. Then one day I saw your picture on a billboard advertising Swoon Queen Bubble Soap. Well, what's good enough for you is good enough for me, Lana. I borrowed a soup vat from the kitchen and took a bubble bath. Gosh, it was frothy. And just like you said in the ad, Lana, those bubbles sure last, because ever since that day, we've been getting soup with a head on it. I don't have to tell you how I'm feeling. The very mention of your name sets my heart reeling.